Tryptophan, 5 hydroxylase 1, Homo sapiens, effet de chaîne.
Thank you.
Vous venez d'écouter la séquence protéidique tryptophan 5 hydroxylase 1 homo sapiens à effet de chaîne.
Est-ce qu'on donne une explication? Qu'est-ce que tu en penses?
Est-ce que tu veux faire pourquoi pas faire une présentation des travaux de Joël Sternheimer?
On remet ça. En fait, je vais la remettre en fond. Mais moi, j'aimerais que tu précises pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent ce que c'est que cette mélodie. Ce que c'est qu'un tryptophan hydroxylase chain effect, parce qu'en fait on écoute une mélodie, une suite de notes, mais c'est pas n'importe quelle suite de notes en fait. Donc elle correspond à quelque chose de très précis.
Oui, la séquence tryptophan 5 hydroxylase 1 homo sapiens à effet de chaîne est une séquence protéidique qui stimule en cascade la production de mélatonine, sérotonine et de DMT dans le cerveau humain.
Donc en gros, on peut écouter ça quelques heures et on peut éventuellement commencer à se sentir très bien.
En se basant sur les recherches du docteur Sternheimer, il semble qu'on puisse, avec une opération d'onde d'échelle, retraduire en temps réel la formation des protéines par des sons. Par le passé, il semble également qu'à des tâches d'agriculture, on chantait dans les champs. Et on chantait également en travaillant, peut-être instinctivement, comme par exemple ces chants traditionnels qui sont retransmis, que l'on chante également dans les rituels, peut-être pour communiquer avec des agrégats biologiques, avec des consciences cellulaires. Actuellement, cette séquence est susceptible de continuer sa route encore quelque peu dans l'espace, avant de se fondre dans le bruit de fond cosmique, pour peut-être même servir de message de communication avec d'autres êtres biologiques, autant que ces êtres biologiques puissent exister en dehors de notre galaxie, par exemple. Mais il me semble que bien plus proche de nous, sur Mars, il y a déjà des bactéries importées par les rovers. Je pense des E. coli ou des bactéries communément retrouvées sur la Terre. Je me demande si l'élongation de l'information à travers les espaces interstellaires puisse peut-être faire muter ces bactéries martiennes d'origine terrestre afin qu'ils reproduisent le schéma induit et peut-être même former une forme d'intelligence à part entière.
Je voudrais qu'on revienne sur Sternheimer. Il s'appelle Joël Sternheimer. Ce qu'on écoute, c'est lui qui a décodé ça. Hein,
le premier, oui, il me semble. Est-ce que tu sais l'année exacte où il a commencé à faire ses recherches?
Il était connu dans fin des années 60 sous le pseudo Évariste. En fait, il a fait un tube pour mener à bien ses recherches. Et il s'est dit le meilleur moyen d'être autonome dans le monde scientifique contemporain, c'est-à-dire d'être totalement libre de faire ses propres recherches telles qu'on l'entend, avec ses propres caprices, ses propres envies, ses propres rythmes, c'était d'être autonome financièrement. Et donc, comme en plus, ses recherches se basent sur la mélodie, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais en fait, il a fait un tube sous le nom Évariste. Donc, les gens qui ont la soixantaine maintenant, régulièrement me disent « Ah oui, j'avais ce disque à l'époque d'Évariste. » Je ne sais plus le titre, mais c'était assez marrant. Et donc, le tube a bien marché et il a lancé ses recherches fin des années 60, il y a peut-être 66, 67, et, ou peut-être 68, je ne pourrais pas dire exactement. Et il a lancé ses recherches sur la structure des protéines à cette époque-là. À l'époque, il travaillait avec un musicien à la Sorbonne, construisait des instruments et commençait déjà à faire des mélodies de protéines avec ça. Et donc ça fait 40 ans de recherche. Et donc en fait, ce qu'on écoute, c'est quand même une mélodie décodée à partir d'une structure de protéines.
D'accord. Oui, c'est ça.
Et ce qui se passe en fait, c'est que cette mélodie est censée rentrer en résonance avec la structure de cette même protéine.
Oui.
Et donc quand on la passe à l'endroit, il y a un phénomène de résonance avec cette protéine qui fait qu'elle va être stimulée. Et donc...
Oui, c'est une forme de phénomène de similitude, c'est-à-dire une stimulation, par le semblable, une résonance.
Ce qui se passe, c'est que si on joue la mélodie à l'envers, l'effet inverse est censé se produire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus création de protéines, mais il y a désagrégation. Donc ce qui... Je sais que Sternheimer teste régulièrement ses mélodies sur lui-même. Donc les mélodies qu'il décode par rapport à telle ou telle protéine, il les teste sur lui-même. Et régulièrement, il attrape des boutons où il tombe malade. Et il est obligé de jouer les mélodies à l'envers pour se reprogrammer à l'inverse, recasser la chose.
Il fait aussi des... En Afrique notamment, il a fait des installations pour favoriser la culture des tomates, en stimulant une protéine qui les protégeait contre une forme de parasite, il me semble.
Ou même accélérer la croissance, simplement, des tomates dans des milieux difficiles. De type désertique, donc avec peu d'eau, finalement, il arrive à effectivement exciter considérablement la croissance de la tomate. Donc il peut appliquer ça dans le monde agroalimentaire d'une manière simple, très efficace, mais il ne le fait pas. Et j'avais posé la question à son directeur de recherche, qui travaille avec lui, une sorte d'assistant, et il disait qu'en fait, il se protège, et qu'ils ont déjà eu la visite de... on va dire d'agroalimentaire américain, après une conférence, prêt à sortir le chèque et acheter le brevet. Mais acheter le brevet, ce n'est pas pour l'utiliser, c'est pour le faire taire. Donc ils ont décidé de prendre le maquis. C'est-à-dire qu'ils continuent de faire ses recherches.
En Afrique, notamment.
Non, il travaille à Paris, mais les tomates, oui, il peut faire des expériences. Il a fait des expériences dans des serres en Hollande, donc là où il a effectivement éradiqué des virus sur certaines plantes. Donc ça marche. À l'époque, il y avait la marée noire avec l'Erica. Il avait travaillé sur comment en fait dissoudre de manière très efficace le pétrole dans la mer avec du son, donc avec des mélodies. Il disait que plutôt que de nettoyer les plages, on ferait mieux de trouver les moyens de dissoudre organiquement.
Tu veux dire une simulation des micro-algues océaniques qui...
Je ne pourrais pas te dire précisément.
Qui décompose le pétrole.
Je sais juste qu'il avait travaillé là-dessus. Donc il avait trouvé une solution, mais aucun moyen de le mettre en pratique. Mais cette histoire de tomates, c'est très concret. C'est qu'on observe les tomates pousser de manière exponentielle avec simplement quelques mélodies. Donc l'impact de telles recherches, de telles découvertes dans le monde agroalimentaire mondial pourrait être absolument colossal. Et donc c'est pour ça que je pense, en fait, l'histoire, c'est que c'est très sérieux et que pourquoi en 40 ans de recherche, un scientifique français comme ça d'avant-garde continue de se cacher. simplement parce qu'il a parfaitement conscience du danger que ça représente de mettre ses recherches à tous les vents, on va dire. Donc il fait des conférences, mais il ne veut pas tellement les faire écouter.
Tomber entre de mauvaises mains, ce dispositif peut être très, très dangereux. Et peut-être
On joue nous-mêmes là un peu avec le feu, c'est-à-dire oui. que là on écoute sérotonine, DMT, ça n'a pas forcément un impact objectif sur tout le monde. C'est que selon les individus, qui sont des sujets,
j'ai expérimenté cette séquence sur moi-même assez longtemps pour avoir.
Oui, mais toi, c'est toi. C'est mais vrai. Une autre personne réagira très différemment.
Alors, une question que nos auditeurs peuvent se poser, c'est pourrait-on utiliser une séquence protéidique pour se protéger contre le virus qui sévit actuellement aussi.
C'est très, question, c'est très clairement faisable.
Puisqu'on parlait de brevets, alors effectivement, il serait intéressant de peut-être trouver dans des banques de données sur Internet, notamment, la séquence protéidique du virus H1N1 afin de le neutraliser.
Si tu fais pas gaffe et que tu le joues à l'endroit, tu vas le choper tout de suite.
Alors, c'est très drôle. Intéressant puisque si effectivement on peut se demander même si ce procédé n'est pas déjà utilisé depuis longtemps, peut-être pas sous forme de séquence de protéodie directement, mais peut-être inscrit à l'intérieur des tubes que l'on entend à la radio. Je pense à des différents groupes musicaux. Mais qui...
C'est le propos de Sternheimer précisément. Il dit que dans la musique populaire et savante, en fait, certains compositeurs que l'on dit inspirés, donc inspirés par quoi ? Telle est la question, ça c'est un autre débat. Mais des compositeurs inspirés, effectivement, parfois, reproduisent des morceaux complets de suites de protéines, de protéidies. Alors protéidies, c'est des mélodies de protéines, donc il a baptisé ça protéidie. Donc il dit que dans la musique de Mozart et Bach, effectivement, c'est truffé de références complètes. Dans la musique pop, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, avec un rythme un peu couillon, par derrière, on peut retrouver effectivement des suites de notes tout à fait particulières qui vont, à un moment donné, toucher la population. C'est-à-dire qu'il va y avoir une résonance massive à une mélodie que l'on trouve super agréable pour on ne sait quelle raison. Et en fait, chacun la reçoit subjectivement en disant « Tiens, ça me plaît. Cette mélodie me plaît. Mm-hmm. » Moi, ces recherches-là, par rapport même au tube ou à la musique pop, ou tout ça, ça m'a complètement réconcilié avec la musique populaire qui serait moins intéressante que la musique savante, soi-disant. Donc, j'en parlais hier avec quelqu'un. C'était avec Gabin Noir, je pense, qu'on parlait de Zbigniew Karkowski, qui est le bruitiste polonais un peu radical qui fait cramer toutes les enceintes à chaque fois qu'il fait un concert. Il déteste la pop, par exemple. Il dit la pop, c'est de la merde. Bon, et avec une arrogance toute singulière. Et je trouve que c'est dommage, en fait, parce qu'on peut être dans une musique... il a étudié avec Xenakis, bon. Donc on pourrait se dire, effectivement, il a raison, la musique pop, c'est de la merde, parce que la musique savante, c'est quand même un peu mieux, c'est plus raffiné, mais non.
D'iconoclasme.
Je pense qu'il y a un zapping.
Si on peut attribuer une image à un son, ça serait une forme de... Quel serait l'équivalent d'un iconoclasme sonore ? Ce serait peut-être une...
Qu'est-ce que tu appelles un iconoclasme sonore ?
C'est-à-dire un refus de la figuration, quelque part. Un son peut se lire peut-être d'une manière figurative ou abstraite. Métaphysique ou... Quel est le sens du populaire là-dedans ? Qu'est-ce que, par exemple, comment est-ce qu'on peut définir le populaire ? Qu'est-ce qui est pop, quoi ?
Peut-être c'est parce que c'est simple en apparence, que la mélodie paraît simple, elle est facile à retenir. Tu ne vas pas retenir une mélodie de Xenakis, donc on appelle ça savant, parce qu'à un moment donné, ça fait appel à beaucoup de données à mémoriser. Peut-être quelque chose de l'ordre de la mémoire, quelque chose de très simple par rapport à quelque chose de complexe.
Est-ce que le silence de Cage est...
Mais ça, c'est le génie de Cage. Hein, il a trouvé des choses très simples.
Est-ce que ça ne devient pas pop aussi à sa manière, quelque part représentatif d'une époque, d'un temps, d'une temporalité? Une dilution comme ça d'une transmission sonore ancestrale qu'on retrouvait peut-être sur les champs et dans les comptines populaires. Mm-hmm. Effectivement.
Je pense que dans les comptines populaires, on doit probablement retrouver beaucoup de structures de protéines. Enfin, pour Sternheimer, c'est clair. Mm-hmm. Donc, fois, je lui avais demandé, après tentative de discussion sur la musique contemporaine, et il était assez évasif. Alors, je lui demandais qu'est-ce qu'il écoutait. Et il me disait klezmer. Musique klezmer, voilà, entre autres. Mais pour lui, c'était des musiques très chargées, très dynamiques, porteuses de vie. Et donc, moi, ça m'a permis de me concentrer un peu plus effectivement sur les musiques de tradition juive, y compris dans l'ésotérisme, avec la Kabbale, ces choses comme ça, où tu aperçois que tout est relié un peu. Mais c'était une réponse assez intéressante, parce que tout de suite, ça donne des directions par rapport à ce que lui, concrètement, il écoute et ce qu'il refuse. Alors, il disait, dans certaines musiques techno, des sons circulaires, un peu comme le son que Jean-Pierre ou Jean-Claude Risset avait fait, une sorte de son descendant, comme ça. Donc, le son descend, et il y a une harmonique qui naît, et donc on a le sentiment que le son est un puits sans fond. Il dit des choses comme ça, ça véhicule quasiment des protéines du prion, quoi. Donc la vache folle, des choses comme ça. Il faut faire gaffe, faut pas écouter n'importe quoi, n'importe comment. Mais c'est un sujet complexe, parce que le rôle de l'observateur et de l'écouteur est fondamental. Donc, quelqu'un qui choisit une mélodie. En fait, l'histoire des protéidies, c'est que les auditeurs doivent la choisir. Là, on écoute le DMT. Si Sternheimer était là, il nous engueulerait. Il dirait, vous êtes complètement couillon d'envoyer ça sur la radio. Parce que s'il y a 100 auditeurs, il y en a peut-être un qui ne va pas être en forme après ça. Et bon, c'est le danger. Mais là, ce n'est pas encore très dangereux, parce qu'on parle du DMT. Mmh. Mais sur certaines mélodies plus, peut-être, plus tordues, ce ne serait pas pareil. Donc, lui, il refuse catégoriquement de diffuser ça, en fait. Donc, le choix de la mélodie par un sujet donné est fondamental. Donc, quelqu'un peut guérir d'une maladie avec ces mélodies-là, si à partir du moment où il écoute un certain nombre de mélodies et il en reconnaît une dans ce lot-là, en disant « celle-là me fait du bien, je ne sais pas l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, et je choisis celle-là ». Donc lui, il fonctionne comme ça avec ses patients. Mais ça nous amène à... Enfin, moi, ça m'a amené à l'idée qu'en fait, tout le monde se calme, se drogue en permanence en écoutant la musique qu'il aime. Donc c'est pour ça que ces histoires de musique savante, de musique pop et de ça c'est de la merde et ça c'en est pas, tout ça c'est totalement arbitraire et stupide, ça n'a aucun sens. Ce qui est important, c'est que chacun écoute la musique qui lui fait du bien.
Tu veux dire, ce qui est important, c'est qu'on sente à un moment donné les poils se hérisser d'émotions sur nos membres.
Quelque chose, on sent que le vivant,
on est là,
nous-mêmes,
on est habité par les sons.
On sent nos cellules frémir, effectivement, il y a une réaction. Et ça, ce truc-là est fondamental. Donc si quelqu'un reconnaît une mélodie, quelle qu'elle soit, dans un tube, un morceau de musique savante ou je ne sais quoi, à un moment donné, il faut focaliser là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à l'œuvre là-dedans. Ensuite, Sternheimer, il révèle ça, mais il va plus loin. Lui, il va carrément chercher la séquence réelle, complète, qui va, à un moment donné, peut-être soigner des gens de manière radicale. Donc soigner des gens, mais aussi faire pousser des tomates ou d'autres plantes du monde organique. Mais le rôle de l'observateur est fondamental, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire. Et ce choix-là, c'est un choix de reconnaissance, c'est un choix de l'observateur avec la réalité. Donc Sternheimer a parfaitement compris l'histoire de tout ce qui se passe avec la physique quantique. On en a parlé ce matin. Le rôle de l'observateur face à la réalité est fondamental. On réactive la réalité en la regardant d'une certaine manière ou d'une autre. Et avec la musique, c'est la même chose. En fait, il n'y a pas de musique objective en tant que telle, c'est-à-dire une musique avec cette suite de notes, on ne va pas dire qu'elle va affecter tout le monde de la même manière, ce n'est pas vrai. C'est précisément là où il y a beaucoup de gens qui se trompent en pensant qu'il y a une musique objective qui va avoir un impact sur tout le monde. Sternheimer ne dit jamais ça. Il dit un pourcentage de gens vont avoir une réaction très différente, mais c'est des statistiques en fait. On peut observer qu'il y a des statistiques qui se mettent en place. Peut-être 80% des gens vont se sentir bien avec cette mélodie, mais peut-être un certain pourcentage, non. Et donc ça, on peut pas le zapper. On est obligé de comprendre le processus, pourquoi un certain nombre de gens résistent, et le fait de résister peut-être les fait tomber malade. Et inversement. On en remet une couche. En gros, si vous écoutez cette mélodie et que ça ne vous plaît pas, vous feriez mieux d'arrêter tout de suite.
N'écoutez pas cette mélodie en voiture, ça c'est sûr, puisque la cascade mélatonine, sérotonine, DMT risque de vous faire perdre vos réflexes. Si vous êtes sur l'autoroute, veuillez changer de chaîne.
Non, ne zappez pas. Et si on l'écoute plus rapidement, ça donne ça, hein.
Je suis
en train de te voir suer à gros
doigts. Tu as discuté d'une chose assez intéressante, c'était justement cette. Tu parlais de musique, de la musique juive et de la Kabbale. Alors effectivement, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de patrimoine comme ça. Européen, mais même juif, européen, judéo-chrétien, on va dire. Je ne sais pas comment on peut décrire cette territorialité sonore. Par exemple, des corrélations entre la musique, par exemple, juive, ashkénaze, tzigane, irlandaise. Si on écoute ces sons traditionnels, on voit qu'il y a une même base, en fait. Il y a une même comptine. Et c'est intéressant parce que je ne sais pas si Vivaldi à l'époque était inspiré pour ces quatre saisons, mais il y a une forme de célébration comme ça du monde et également une sorte de célébration, une mise en abîme de la condition humaine. Et c'est intéressant avec tu parlais tout à l'heure de la Kabbale, peut-être aussi de la question de la dent primordiale, et puis de l'arbre séphirotique, de la condition humaine, quoi. Et alors ça, moi j'ai l'impression qu'on a perdu un peu ce contact avec ces archives, avec ces données. C'est-à-dire que si on peut faire la critique de la musique, de la musicalité actuelle, c'est qu'elle est séquencée. C'est une musique séquencée, elle est tronquée, elle est amputée. Nous célébrons à travers nos musicalités actuelles, puisque peut-être nous sommes dans une société d'accélération exponentielle, nous célébrons des cadavres, des amputations. L'image du monde est amputée. Ça, c'est mon impression. Qu'en penses-tu par rapport à la séquence, par exemple, sans parler de l'ère digitale dans laquelle nous sommes confinés actuellement, qui est une ère stroboscopique, c'est-à-dire une information et une absence d'information, une sorte de raccourci qui essaye d'imiter le langage sinusoïdal, le son, les sonorités de la nature. Nous sommes dans les paquets d'informations. Comme on parlait ce matin, effectivement, peut-être pour faire une parenthèse avec le brouillard électromagnétique, nous vivons actuellement dans un monde de sampling. Nous vivons dans un monde séquencé. Et nos corps, le corps des êtres vivants n'est pas habitué à ces signaux. Nous sommes beaucoup plus habitués aux signaux du cosmos, voire même aux pulsations d'un pulsar, au rayonnement cosmique. Mais quantisation du monde, ça c'est quelque chose de relativement nouveau qui vient avec l'ère digitale. On peut aussi se poser des questions sur l'impact finalement de.
Tu veux dire de la séquentisation ?
C'est ça.
L'impact ?
Oui.
L'impact, c'est probablement dans les deux sens. À la fois, il y a un appauvrissement effectivement de l'information, je pense, effectivement, parce que. La question de la boucle, c'est complexe. C'est vraiment un sujet complexe. des gens qui travaillent, des gens comme Terry Riley en leur version, et puis d'autres, une autre vision complètement opposée. Je veux dire, il y a toute une gamme de points de vue sur ces histoires-là. Je pense que si on rentre là-dedans, on ne sait pas que c'est un bourbier, mais c'est des questions tellement complexes qu'il nous faudrait 2 heures pour commencer à entamer quelque chose là-dessus. Parce qu'on est obligé de partir. Parce que dans la séquentisation, il y a l'idée de... Qu'est-ce que tu veux dire par séquentisation, déjà ?
C'est-à-dire qu'il y a, il y a un effet stroboscopique. Il y a un manque, en fait. Il y a un manque. Le cerveau est dupé, étant donné qu'il la réintègre, il relie un son séquencé comme étant un vrai son. Mais qu'en est-il du langage du monde, du langage des cellules, du vivant ?
Voilà, effectivement. Quand j'ai commencé à faire du son avec des ordinateurs, j'étais très vite dans le sample. Et très rapidement, j'ai eu l'intuition qu'il fallait vraiment s'extraire du délire technoïde de l'époque, début des années 90. Ça tournait en boucle à tout va, hein. C'était la new beat allemande, des trucs extraits. Enfin, début de la minimal techno obsessionnelle, comme ça, des trucs qui te mettent soi-disant en transe, mais c'est de l'hypnose pure et dure. C'est-à-dire que tu écoutes ça une demi-heure, tu es complètement en onde alpha. Et là, ce sont des états, comme tu le sais, un peu délicats, parce que si la personne est consciente qu'elle switch en onde alpha, c'est-à-dire une pulsation des ondes cérébrales autour de 7 à 9 Hz, on peut faire passer toutes sortes de messages très facilement. Pour une personne qui est dans un état comme ça. Donc déjà, à Paris, on le voit très clairement dans le métro, c'est une sorte de temps, un peu tampon entre... Ouais, un point A et un point B, et très rapidement, les gens passent en onde alpha. Donc ça, on voit, tout le monde est en hypnose, et c'est très bien pensé, on va dire, par les publicistes qui ont très rapidement compris que c'était l'endroit idéal pour mettre de la publicité en grand. Donc en fait, vous ne regardez même pas les publicités, mais vous êtes totalement dans un état de... Enfin, qu'on peut vous suggérer des messages très précis, très cachés, des fois pas du tout. Donc bon, ça, si on en est conscient, on peut gérer l'histoire. Mais c'est vrai qu'avec la séquentisation du son, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que la techno, je m'en suis toujours méfié de manière très ferme, pas radicale, parce qu'il faut être ouvert, mais il y a un piège là-dedans. Mais encore une fois, c'est la question du sujet est primordiale. C'est-à-dire que si la personne est suffisamment aware, réveillée par rapport à ce qui se passe avec ça, et on peut le gérer, on peut tout à fait en prendre un plaisir certain. Si on écoute de la minimal techno ou du Terry Riley avec des boucles pures, effectivement, l'écoute peut vraiment plonger, une attention peut vraiment creuser le son, creuser l'attention, creuser un état. Mais si on n'a pas les ressources intellectuelles pour vraiment commencer à creuser là-dedans, on peut très vite se retrouver dans une rave avec 50 000 personnes complètement abruties. Moi, ça, c'est des choses que je considère comme inacceptables. En fait, ça ne m'intéresse vraiment pas. Et le problème, il est là. Et moi, j'étais très surpris de gens très talentueux comme toute la techno de Détroit, d'aller directement, enfin d'accepter les règles de la techno, c'est-à-dire, ok, on a un bon salaire, on va faire une rave, on va balancer 3 vinyles devant 20 000 personnes, et n'avoir strictement aucun problème avec ça. C'est quelque chose qui me fascine totalement. Je dis, mais comment on peut y arriver à ça, en fait, de ne pas se poser tellement aussi peu de questions et d'y aller avec le sourire en disant c'est génial, allons-y, il n'y a aucun problème en fait. Ça, c'est, pour moi, c'est fascinant. C'est un truc, je n'arrive, après 20 ans, 15 ans, 20 ans de techno comme ça, je suis toujours hyper surpris que de la virulence en fait, de la violence derrière ces méga DJ comme Carl Cox, Jeff Mills ou Plastic Man qui n'ont aucun problème à faire ça. Et au contraire, le revendique. Et donc, comme il le revendique d'une manière totalement ouverte, ça crée des viralement des clones. Donc, à ce niveau-là, ouais, on est quand même dans un certain délire. Mais c'est complexe parce que, encore une fois, dans les 20 000 personnes, il y a peut-être un pourcentage de gens qui sont suffisamment conscients de tout ce qui se passe et qui prennent un plaisir malin parce qu'ils sont complices. Mais je ne sais pas si tu t'es déjà retrouvé dans une rave avec 10 000 personnes. C'est une expérience de type bovin.
10 000,
quoi.
Ils me semblent pas, mais...
C'est assez impressionnant.
C'est-à-dire que, oui, effectivement, cette répétition rythmique là, qu'on retrouve dans la techno, c'est sûr, c'est un... Mais quand même, je pense par exemple au tambour chamanique, je pense au rythme
ça n'a rien à voir, c'est organique.
Qui gardent leur maladresse, qui gardent leur,
tout leur est là, tout
subtilité,
est là.
C'est ça qui est... C'est mais finalement, où est la question, enfin, la question de l'humain est toujours centrale, c'est-à-dire qu'à un moment donné... au niveau cognitif, les paradigmes développés par la répétition sonore programmée, parfaite, machinique, pour moi, je pense que c'est complètement contraire à...
au vivant.
Au vivant, c'est complètement. Et ce n'est même pas. Ce n'est même pas mathématique, dans le sens où. Où c'est même pas ça, les mathématiques, on peut dire.
Oui, mais là,
c'est même pas.
On est en train d'écouter.
Ce sont des variations. Oui.
On est en train d'écouter une mélodie produite par un ordinateur.
Oui, alors là, pour le coup, c'est complètement digital. Et puis, effectivement.
Je pense. Tu as raison sur un certain point, c'est que c'est contraire au vivant parce que c'est mécanique.
Oui, c'est ça.
Déjà. Mais ensuite, encore une fois, moi, je pense que le sujet et l'observateur a un choix à faire. Donc, s'il refuse en fait en lui-même d'être agressé ou de considérer une répétition mécanique comme une agression, quelque chose s'active, c'est-à-dire qu'il accepte cette réalité et il a fait sienne. Il ne la subit plus. La question est là, c'est de ne pas subir la chose. Et parce que je ne vais pas dire que la musique mécanique en tant que telle est objectivement mal. C'est pas ça l'histoire. On peut pas dire qu'elle est mauvaise en tant que telle pour le vivant. C'est si le vivant est en dialogue avec cette structure froide et très rigide, il y a quelque chose qui peut se mettre en place.
Je suis même persuadé que d'un point de vue, on va dire, objectif, même une machine, une machine lourde en métal qui tourne comme ça, est beaucoup plus chaotique, finalement vivante, qu'une machine purement digitale. Dans le sens où il y a une friction, il y a une...
Mais même le digital est vivant.
Il y a une gravité, les atomes sont attirés plus ou moins par la Terre. Il y a peut-être un mouvement galactique au loin qui attire un peu plus la gravitation dans un sens ou dans un autre. Je ne sais pas. Mais c'est quand même. Alors c'est vrai que pour le digital, on peut dire que c'est pareil finalement de ce point de vue-là. Mais c'est plutôt ces paradigmes qui sont développés par cette société de séquences. En fait, c'est ça. Aussi des séquences. Et ce qui m'intéresse presque au niveau métaphysique, c'est dans ces vides. Qu'y a-t-il dans ces vides de séquences, en fait, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'information circule et puis à un moment donné, il y a des vides. Et ces vides, forcément, par quoi sont-ils habités? Par quels fantômes? Quels fantômes viennent habiter ces vides?
Vaste question. On part sur la vacuité, le vide. Je sais pas, je voulais revenir sur le digital que mécanique. Que finalement, on peut tout à fait le considérer aussi comme organique. Dans le sens où tu sais très bien, par rapport à cette histoire avec Jean-Pierre Girard, là, qu'on a rencontré récemment, que la matière est vivante. Elle est faite, il n'y a rien... D'un point de vue de physique quantique, du point de vue de la physique quantique, il n'y a rien qui nous sépare de l'objet qu'on est en train de regarder sur une table, réellement. Donc, il n'y a qu'une relation qui nous échappe, parce que nos cinq sens limitent cette relation, mais cette relation, elle peut être tout à fait activée à partir du moment où on le souhaite et on active un dialogue. Donc, Jean-Pierre Girard, c'est une personne qui fait de la télékinésie, donc qui tord des barres de métal avec l'intention de le faire.
Et c'est aussi des talents de remote viewing, donc, de perception à distance.
Donc c'est pour ça, est-ce que le métal c'est froid, on pourrait dire les ordi c'est mécanique, digital, froid, mais en même temps, tu jouais avec un random number generator hier, tu sais très bien que voilà, ça produit un nombre aléatoire en permanence et que tu peux toi affecter.
Oui, bien sûr.
Alors que ce
générateur.
C'est
le postulat du Global Consciousness Project qui est installé autour de la Terre, il me semble, tout un réseau de générateurs de nombres aléatoires afin de lire en continu comme ça des séquences complètement aléatoires. Et puis c'est vrai, on a constaté qu'avant des événements planétaires de grande échelle, il y a des pics significatifs, c'est-à-dire qui passent sous la barre des probabilités. Et ils ont enregistré des pics, notamment juste avant le tremblement, le tsunami de Sumatra, et puis
en septembre aussi.
En septembre également.
Tu penses à Sheldrake? Bernd Sheldrake fait partie de...
Alors, c'est vrai que Sheldrake, lui, il est plutôt... Lui, il a développé les champs morpho-énergétiques de Sheldrake. Bon, c'est un peu... Quelque part, ça se rapproche de la nousphère de Teilhard de Chardin, c'est vrai. Donc, c'est une idée de conglomérat cognitif, comme ça, qui sont consultables. Un médium qui connecte, finalement, une sorte de... Sheldrake a plutôt s'est plutôt intéressé à la télépathie entre des membres d'une même espèce, ainsi qu'au transfert d'informations en temps réel à travers les membres d'une même espèce séparés, complètement séparés. Et effectivement, il y a quelques résultats troublants, c'est-à-dire et presque ça rassure, puisqu'on, d'après ses recherches, on se rend compte que tout est inscrit dans un immense réservoir de connaissances. Peut-être que on pourrait faire un parallèle avec les archives akashiques indiennes. Donc un réservoir de connaissances qui est consultable inconsciemment à tout moment et qui enferme la globalité de l'expérience d'une espèce. Un peu comme ce qu'on a extraterritorialisé à travers nos technologies, à travers Internet, par exemple. Donc un moteur de recherche qui est à l'image d'un moteur de recherche déjà existant. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est pourquoi dans l'évolution de l'humanité, on en est venu à extraterritorialiser ces conglomérats cognitifs. Vous vous demandez pourquoi ? Bon, quels sont les facteurs ? Est-ce que c'est simplement l'accélération des technologies ? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, on a extraterritorialisé ça, on a fait Internet maintenant. Et puis demain, ça sera, si on suit cette logique, on peut très bien imaginer, dans une certaine forme de convergence singulariste, la volonté de mettre en place un intranet biologique, mais quand même basé sur une sorte de dictature technologique absolue. Je pense à des puces implantables connectées à une intelligence artificielle qui, elle, nous met en relation, c'est-à-dire nous met en relation en temps réel, nous permettent de communiquer télépathiquement. On le fait déjà avec nos portables, mais c'est, oui, on a encore le geste, encore ces prothèses-là, palpables. Si on imagine des technologies invasives donc qui sont directement implantées par des nanotechnologies dans notre cerveau et connectées à une sorte d'intelligence comme ça artificielle qui joue le rôle d'un routeur ou d'un serveur supra-intelligent, effectivement, on peut tomber dans l'absolue singularité de la situation, c'est-à-dire cette extraterritorialisation à son point le plus absolu. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on pourra encore parler d'humanité ? Et même là, on peut se demander, alors même si ceci est en train d'arriver, peut-être aussi, ça peut être aussi dans une pure fiction, peu importe. La question est plutôt pourquoi quelle est la nature de cette conscience qui finalement va à un moment donné traverser les espèces, s'insuffler dans l'humanité et finalement après peut-être effectuer un glissement comme ça. Un glissement. Alors est-ce qu'on est qu'une étape ? Peut-être on est sûrement pas l'aboutissement de l'intelligence dans l'univers, mais est-ce qu'on est une étape et à quel point de l'échelle nous sommes actuellement ?
J'ai un autre point de vue. En fait, moi, je pense qu'effectivement, la race humaine telle qu'on la connaît est probablement en train de s'éteindre et qu'en fait, vu un petit peu les conditions actuelles, il va certainement y avoir une sorte de mutation, c'est-à-dire dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire une mutation avec la technologie, mais en espérant que ce soit d'une manière éclairée.
Donc tu es plutôt...
C'est sur le versant...
C'est la théorie transhumaniste, on va dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va glisser comme ça,
Non, en fait, je pense que l'âge d'or de l'humanité est derrière, c'est-à-dire les états de conscience avec une connaissance un petit peu profonde des différentes réalités, des différentes dimensions, du dialogue avec ce qu'on appelle l'au-delà, ce qui paraît très flou encore en Occident, c'est-à-dire quelque chose qui n'est absolument pas digéré, c'est-à-dire le dialogue avec ce qu'on ne voit pas.
Avec nos morts, quoi.
Avec nos morts et les dimensions supérieures. Donc ces choses-là, je pense, ont été largement...
Occultées.
Occultées dans la culture, c'est clair.
Mises en...
Non, mais elles ont été largement cherchées, comprises dans d'autres cultures, et ces cultures sont du passé. Moi, je pense à l'Inde, effectivement, je pense aux Amérindiens, je pense à des cultures mayas, incas, tout ça. Probablement, il y avait des choses qui étaient profondes et à l'œuvre, et que cet âge d'or de l'humain, c'est-à-dire sa réalisation spirituelle, et du passé. Donc maintenant, on est 6-7 milliards. Qu'est-ce qui se passe? Plus grand-chose, à part des guerres, à part un gros business. Bon, on est dans une autre configuration, mais là, ce sont des spéculations matérialistes sur une vision de l'humain avec un cerveau, et s'il évolue, etc. Mais pour la cabale, pour des médiums, pour des hypnothérapeutes, pour les gens qui travaillent un petit peu sur... la survie de l'âme et où va l'âme après la mort, ces choses-là, il y a une conscience que probablement on peut s'incarner dans d'autres dimensions, le corps humain n'est qu'un réceptacle qui nous permet de faire une expérience à un moment donné dans l'univers, on va dire ça comme ça. Donc ces choses-là sont totalement occultées dans la culture occidentale. Pourtant, cette occultation est en train de s'effriter totalement parce que on commence à comprendre avec la science, c'est la science qui est en train de permettre à l'Occident finalement de reprendre le travail sur ces choses-là, parce que la science arrive au même résultat. On est en train de s'apercevoir que la réalité est une belle illusion et que nous la créons en permanence. Donc si nous la créons, nous avons quelque chose à activer et nous pouvons imaginer la réalité telle que nous la voulons. Pourquoi pas? Et donc ces histoires de survie après la mort font peut-être partie du processus. Donc quelqu'un qui dirait après la mort c'est le néant, a priori s'il a envie que ce soit le néant, ce sera le néant. Quelqu'un qui a envie d'imaginer qu'après la mort il se passe autre chose, va peut-être effectivement vivre autre chose. Pourquoi pas?
S'il y a une seule certitude que nous avons, c'est qu'un jour nous allons mourir. Mais s'il y a une chose que nous ne savons vraiment pas, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ça c'est la plus grande certitude et le plus grand inconnu.
Tu as remarqué, on a commencé à parler de la mort et la lumière s'est éteinte.
Donc en définitive, si on peut conclure notre discussion.
On va déjà arrêter là. La protéidie là, stop. Bon, là, normalement, tout le monde est shooté la sérotonine. C'est ça l'histoire. Hein. C'était un trip pas cher. Bourges. Oula. Bourges défoncé. Ça valait le coup.
Merci.